Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une vie singulière de femme. Je reçois Marie-France Bocassa, l'une des filles de Jean Bedel Bocassa. Bonjour Marie-France Bocassa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes née en Centrafrique, mais vous avez surtout été élevée en France, dans le fameux château d'Ardricourt, dans les Yvelines, aux côtés d'un père attentif et maltraitant, aimant et autoritaire, fier de sa progéniture et destructeur. Alors comment se construire quand on est la fille de Jean Bedel Bocassa Ier, au sentiment de paternité exacerbé, qui gouvernait son château comme il avait gouverné son peuple finalement, et qui aimait à raconter qu'il avait eu 56 enfants de 17 femmes. Bocassa, connu en France pour le faste de son sacre comme empereur, et surtout pour les fameux diamant offert à Giscard d'Estaing, qui n'était pas encore président à l'époque. Bocassa, qui résonne à lui seul de toute la France-Afrique, cette politique peu glorieuse de cette France post-coloniale. Vous avez 44 ans aujourd'hui,
oui.
Marie-France Bocassa, et vous avez raconté votre folle enfance dans un récit précis et simple, Au château de l'ogre, publié chez Flammarion. Et en fin d'émission, un reportage de Charlie Dupiot. Elle a rencontré un ex-otage américain en Syrie. Il figure dans le documentaire Otage, qui a été diffusé sur la chaîne Canal+, un documentaire qui aborde différents parcours de captivité, avec pour point commun la gestion mentale de cette parenthèse de survie. Mais tout de suite, retour au château de l'ogre avec Marie-France Bocassa.
Un trône en bronze massif pesant plus de 2 tonnes, sans un coup de canon, une débauche d'or et de pourpre, rien ne manquait à l'événement historique, le sacre ce matin à Bangui de Jean Bedel Bocassa. Il est devenu président à vie et empereur de la République centrafricaine. 173 ans après Napoléon Bonaparte, l'empereur Bocassa Ier, portant couronne, sceptre, épée et manteau de pourpre, a officiellement prêté serment. Un 4 décembre 77, dont on se rappellera à Bangui, il aura coûté 100 millions de francs, le cinquième du budget annuel de l'Empire centrafricain.
Marie-France Bocassa, vous êtes née en 1974 à Bangui.
Oui.
Vous avez 3 ans quand votre père est sacré empereur.
Oui, tout à fait.
Vous avez de vagues souvenirs de cette époque ?
Mais en fait, j'ai aucun souvenir quand il s'est autoproclamé empereur. Les seuls souvenirs qui me restent, en tout cas les premiers souvenirs de mon enfance, c'est vraiment dans le pensionnat de Suisse. J'ai donc ces images de bâtisses en pierre avec tous ces arbres. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est ce que je décris dans l'ouvrage, c'est ces berceaux en fer, en fait, dans des dortoirs. Donc, on était assez nombreux. Après, avec voilà, toutes les activités qu'on avait, parce que bon, j'ai quand même passé de belles petites années en Suisse jusqu'à l'arrivée de ces personnes étrangères qui venaient nous chercher pour partir en Côte d'Ivoire, un pays qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis finalement, de la Suisse à la Côte d'Ivoire, on se rend compte que ben, c'est complètement différent. Puis c'est ce que je dis, ben, on passe de plein de petites personnes blanches et nous-mêmes ne voyons même pas qu'on était, voilà, on était des petits Africains.
Mais alors les premières années de votre vie, vous les avez reconstituées, vous êtes née d'une fratrie très nombreuse. Votre père, Jean Bedel Bocassa, a affirmé qu'il avait eu au total 56 enfants avec 17 femmes. Et vous avez reconstitué ces premières années de votre vie au palais de Berengo, à 65 km de Bangui. C'est ce qu'on vous en a raconté, parce que les enfants vivaient, les enfants de votre père, vivaient sous le même toit que lui.
Oui, tout à fait.
Mais ils ne vivaient pas avec les épouses.
Oui. Donc, quand on vivait au château, et il aimait nous conter justement ça et dire à quel point il aimait ses enfants, c'est là où j'ai compris que finalement, les mères n'étaient que des génitrices. Hein. Elles procréaient, en fait. Voilà. Mais oui, mon père nous a raconté qu'il nous gardait auprès de lui et que toutes ces femmes, il avait fait construire des petites maisons autour de sa villa, comme un roi à son harem de femmes.
Ouais. Il y avait votre maman.
Oui, il y avait ma maman.
Qui venait de Taïwan.
Dont j'ai aucun souvenir, en fait.
C'est ça. Parce qu'elle elle a quel âge quand elle épouse votre père?
Quand elle épouse mon père, elle est toute jeune.
Une quinzaine d'années.
Oui, elle a une quinzaine, 15-16 ans.
Est-ce que vous savez comment il l'avait rencontrée?
Ben lui, il m'avait dit qu'il l'avait rencontré pour un voyage d'affaires. Ensuite, quelques années après, ça a été confirmé. Donc, il l'a rencontrée. Elle travaillait, en fait, c'était une petite main dans un restaurant à Taïwan, dans un village, dans une ville de Taïwan. Elle le servait, en fait. Il était en dîner d'affaires. Et il a demandé sa main. Et il a pu l'emmener avec lui, en fait, quelques jours plus tard.
Mmh. Votre mère a eu deux filles, donc, hein, vous, oui. Une sœur. Alors, juste après le sacre de votre père, il décide de mettre ses enfants à l'abri en Suisse. Donc, il envoie une bonne partie de ses enfants dans ce pensionnat. Vous avez quoi, 3 ans à l'époque,
hein ? Oui, 2-3 ans. Enfin, moi, j'avais 2 ans. Je devais avoir 2 ans.
Ça a été les plus belles années de votre vie ? Vous y êtes resté quelques années ?
La Suisse, non, ça n'a pas été les plus belles années. Les plus belles années, c'était sur les terres de la Côte d'Ivoire, en fait, d'Abidjan.
Vous êtes parti ensuite, hein, après la Suisse.
Voilà, où on est
parti
ensuite. Oui.
Parce qu'en fait, en 79, il y a le coup d'État. Votre père donc quitte la Centrafrique et il se réfugie en Côte d'Ivoire sous la protection du président Houphouët Boigny. Et là aussi, il rapatrie ses enfants de Suisse vers Abidjan.
Oui, 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 tout à fait. Donc là, on est rapatrié vers Abidjan et on est accueilli dans une demeure qui appartenait à l'ancien président Félix Houphouët Boigny. Et une fois qu'on arrive dans l'enceinte de cette bâtisse, se reproduit exactement ce qui s'est reproduit par la suite dans le château d'Ardricourt, c'est-à-dire qu'on est enfermé. Il y a des gardes tout autour, mais bien sûr, on comprend que notre père est en résidence surveillée. Surveillée, en fait, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que ça veut dire. J'avais plutôt l'impression d'être prisonnière de quelque chose et que notre seul échappatoire, en fait, c'était l'école. Donc oui, les plus belles années, c'était la Côte d'Ivoire. Parce que quand on sortait de cette ville-là pour aller à l'extérieur, aller à l'école, les enfants étaient joyeux. Et l'impression que j'ai eue, c'est que les Africains ne nous jugeaient pas. Au contraire, ils vénéraient notre père. C'est vraiment une fois qu'on est arrivé à Ardricourt que tout a basculé.
Il savait qui vous étiez lorsque vous alliez à l'école
oui,
à Abidjan.
Oui, tout à fait. Il nous acclamait même dans les rues. À Abidjan encore, on avait un chauffeur qui nous déposait à l'école. Et les enfants, vraiment, je voyais au travers des fenêtres de la voiture où les enfants couraient et applaudissaient, criaient de joie. Donc non, c'était bonne ambiance. Là, vraiment, j'en ai gardé des bons souvenirs.
Ouais. Alors en même temps, paradoxalement, par rapport à la Suisse où vous étiez... bien traité, où il y avait une culture de l'enfance bien traitée.
Oui.
Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous découvrez un peu la chicotte quand même.
Là on découvre la chicotte, mais on s'adapte parce que tout autour de nous, on a des remontrances un peu de tous les adultes, en tout cas qui sont là-bas, c'est-à-dire qu'on nous parle d'éducation et apparemment l'éducation passe par là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc finalement, on n'y voit pas de mal. Et la chicotte, ça, en tout cas moi, ça ne m'a jamais empêché de faire des bêtises.
De la Suisse à la Côte d'Ivoire, à chaque fois, quand votre père vous emmène, il y a combien d'enfants dans les bagages en fait ?
De la Suisse à la Côte d'Ivoire, on est toujours une petite dizaine. Hein, les mêmes qui sont arrivés, enfin pas exactement. De la Côte d'Ivoire, on devait être de la Suisse à la Côte d'Ivoire 13. Et arrivé au château d'Ardricourt, on était 9-10. Bon, il faudrait que je commence à les compter par rapport à tout ce qu'on était. Mais oui, il y a des mamans quand même qui sont venues récupérer leurs enfants en Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas tous arrivés en France.
Et la vôtre ?
Non, elle n'est jamais arrivée.
Où est-ce qu'elle est partie alors à ce moment-là ? À quel moment ? Vous savez quand est-ce qu'elle a quitté le continent africain ?
Oui, elle a quitté le continent africain. Je devais avoir 1 an. Donc elle m'a quitté. J'avais 1 an. J'ai aucun souvenir d'elle. Et ma sœur et moi, ma vraie sœur et moi, on est les deux seuls enfants de notre père à n'avoir jamais connu notre maman.
Ouais. Votre père l'a laissé repartir. Il y a eu une forme d'accord tacite à condition qu'elle laisse ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, vous savez ?
Alors, ma maman, à l'époque, elle a prétexté, en fait, ne pas supporter, être allergique de ce qu'on m'a rapporté, d'être allergique au soleil. Et puis surtout, son père était mourant à Taïwan. Donc, il fallait qu'elle rentre pour pouvoir le soigner et l'aider. Et donc, ça n'a pas plu du tout à mon père qu'elle reparte. Du coup, il lui a demandé de ne jamais revenir. Donc, en échange, on m'a dit qu'il lui a remis 40 000 dollars pour ne plus jamais revenir.
C'était une façon... d'acheter ses propres enfants ?
C'était une façon d'acheter ses propres enfants et finalement, en contrepartie, il lui donnait de l'argent pour qu'elle puisse donner les soins nécessaires pour son père.
Et puis en 1983, donc après la Côte d'Ivoire et la Suisse, vous avez 9 ans, vous arrivez en France. Alors là, c'est l'installation de la famille à Ardricourt, c'est bien ça, hein ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Dans les Yvelines, le fameux château dont toute la presse parle à l'époque.
Depuis 2 jours, la vie d'Ardricourt dans les Yvelines a changé. En effet, c'est là
que l'ex-empereur Bokassa réside dans son château. Et Hardricourt connaît une certaine effervescence. Marie-Pierre Subtil y a passé la journée.
Depuis dimanche soir, le village d'Hardricourt, près de Melun, a perdu sa tranquillité. Les 1600 habitants ne sont pas vraiment dérangés. CRS et journalistes ne font que passer. Les rues sont restées désertes. S'il y a un peu d'agitation, c'est autour du château, à une centaine de mètres de l'église. En fait, la seule chose qui gêne ici, c'est la présence dans la commune d'un hôte peu désirable. Une hostilité sourde est née, comme si les habitants avaient honte d'avoir Jean Bedel Bokassa pour voisin.
C'est un peu gênant le fait qu'on ait des étrangers dans le village, mais enfin moi ça me dérange pas. Bah parce que c'est pas toujours très agréable.
Hein. Pas tout ce qu'il a fait quand même, hein. Je sais pas si.
Moi ce que j'en pense c'est qu'ils auraient pas dû l'accepter en France.
Avec les choses qu'il a fait.
Après tout ce qu'il a fait, avec les choses qu'il a faites, voilà ce qu'on entendait. Les choses, bon, bien sûr, il y avait le fait qu'il s'était autoproclamé empereur. Il y a la révolte des lycéens aussi qui a été réprimée dans le sang. Et puis, il y a tout un imaginaire aussi autour du nom de votre père. Comment ça se passait à l'école ?
Quand on est arrivé déjà donc dans l'enceinte du château, on a pu remarquer à plusieurs reprises, enfin voire même tous les jours, plein de gens attroupés aux grilles du château qui nous regardaient. Et cette impression vraiment, je le répéterai jamais assez parce que ça fait mal, cette impression d'être comme des animaux en fait, en cage. Et ensuite, on a été scolarisés donc dans l'école primaire, dans l'école du village. Et une fois arrivé dans cette école, ben, on a subi beaucoup d'insultes. En tout cas, moi, j'en ai subi pas mal. Mais bon, après, comme je dis, il ne faut pas se lamenter. Et, au contraire, mes camarades qui m'insultaient, finalement, ça a été après mes meilleurs amis. Donc, c'était très dur parce que c'était des jets de pierre, des crachats, des « ton père va nous manger ». Donc, vraiment, on tombe en plein dedans et on ne comprend pas trop.
Les fameuses rumeurs de cannibalisme.
Voilà, les fameuses rumeurs de cannibalisme. Mais en tant qu'enfant, on n'est peut-être pas assez préparé. Voilà, moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, quand j'y repense, ouais, j'en veux un peu aussi à notre père de ne pas nous avoir assez préparés à ça. C'est-à-dire qu'il nous a emmenés avec lui dans ce village sans nous dire le pourquoi, le comment. Il a fallu le découvrir avec le temps. Et ouais, pour un enfant, c'est très, très dur.
Est-ce que lui-même s'y était préparé à cet exil
en
France ?
Non, il n'était pas préparé.
Qu'est-ce qu'il vous disait sur ces vexations que vous viviez à l'école ?
Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il accusait la France, toujours l'État français. Mmh. Il disait que c'est eux qui l'ont mis, qui l'ont emprisonné dans ce château. Alors, je ne comprenais pas trop parce que je me disais, ben, ce château, c'est lui qui l'a, enfin, c'est sa propriété, c'est lui qui l'a acheté, il devrait être content. Et finalement, non, il n'en était pas très content. Donc, oui, il accusait la France tout le temps.
Une prison, c'est ce qu'il décrit. En réalité, cette prison, il l'a construite aussi pour ses propres enfants.
Oui, il l'a construite, je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, oui, il l'a construite pour ses propres enfants aussi. Il aurait pu choisir autre chose pour nous, et pourtant, voilà, tout ce qu'on a, en tout cas, tout ce que j'ai pu vivre à l'intérieur, il n'y a que lui qui est coupable aujourd'hui.
À quel moment il décide de mettre des barreaux aux fenêtres, de verrouiller les portes, de surveiller ?
Ça a été très très rapide. Dès qu'on est arrivé, voilà, les barreaux, enfin les entreprises sont arrivées, les barreaux ont commencé à être installés. Alors il disait avoir peur de quelque chose, d'un attentat, qu'on puisse justement l'exécuter. Mais assez rapidement, en tout cas moi j'ai compris que non. Je pense que c'était pour nous garder dans l'enceinte de ce château et qu'il en gardait justement les séquelles de sa vie passée en tant que chef d'État. Quand je dis séquelles, c'est vraiment son côté très dictateur. Quelqu'un qui gouverne, qui dirige un pays, comme on dit, d'une main de fer. Et ça, il l'a toujours revendiqué. Et comme il n'avait plus personne à contrôler, ben, voilà. C'était nous, ses enfants, en fait, finalement, qui devions subir ce que d'autres ont subi avant.
Vous étiez une dizaine, de 2 à 13 ans, c'est ça ?
Oui.
Ce qui aurait
fait de 0 à 13 ans, parce qu'on a, voilà, j'ai un de mes frères qui est né par la suite.
Donc d'une nouvelle épouse,
concubine. Mm-hmm.
Ouais. Qui était sa secrétaire. D'ailleurs, on vous a assigné à un moment donné un rôle particulier avec ce bébé. Vous étiez toute jeune.
Oui. On m'a assigné au rôle de maman. Maman ou je ne sais pas, en fait, domestique, maman. Tout est confusion chez moi. Parce que maman, c'est un bien grand mot. Mon petit frère avait une maman aussi. Mais elle avait pour maître notre père. Hein. Donc finalement, elle reproduisait exactement ce que lui faisait, parce qu'il l'avait connu tôt.
Et qu'est-ce que vous deviez faire avec ce bébé ?
Ben tout, nuit et jour, ce bébé, mon autre petite sœur, je devais m'en occuper la nuit, le jour, donner des biberons, changer les couches, les changer, les doucher, enfin tout ce que fait une maman.
Mais comment on va à l'école ensuite ?
Ben on puise dans ses ressources. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis comment j'ai fait pour tenir, mais on tient.
Comment se construit ensuite tout le système de l'administration à Hardricourt, c'est-à-dire un quotidien qui est fait d'humiliation, vous avez connu la faim, aussi incroyable que ça puisse paraître.
Oui, on a connu la faim et par rapport aux sanctions et aux punitions, un des moyens pour nous faire entendre, en tout cas que c'était lui qui commandait, était qu'on était puni pendant 2, 3 jours, 4 jours. Et voire même à un moment donné, alors pour nous qui n'avions pas le droit à l'époque de sortir dans le jardin parce qu'ils prétextaient des journalistes à nous prendre en photo ou nous poser des questions, ben bizarrement, quand ils nous sanctionnaient, on restait dehors la nuit. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'enceinte.
C'est-à-dire que vous dormiez dans le parc du...
On dormait dans le parc du château et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur.
Quelle que soit la saison ?
Hiver comme été.
C'était la punition ?
C'était la punition. C'était la punition parmi toutes les autres.
Et pour la nourriture ?
Au début, on mangeait les fruits. Des fruits, j'en ai mangé, on en mangeait plein. En fait, le jardin, il y avait pas mal d'arbres fruitiers, il y avait des cerisiers, des pommiers, il y avait des poiriers, donc on mangeait beaucoup de fruits. Mais... Puis un jour, j'ai fini par faire la grille, j'ai commencé à la faire la première, et puis j'ai entraîné en fait mes frères et une de mes sœurs pour leur dire que c'était pas possible, il fallait qu'on trouve une sortie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller... On a été volé en fait au supermarché du coin. Aujourd'hui, je suis peu fière de dire ça, mais en même temps, on n'avait pas le choix.
Vous n'étiez pas l'aîné, vous étiez la chef de bande pour ce qui était des révoltes contre votre père.
Hein. Ouais.
Il y a eu les vêtements brûlés aussi dans le jardin, pas forcément les vôtres d'ailleurs.
Non.
Mais c'était une habitude
qu'il
avait.
Mais tout en fait, parce que finalement, c'était aussi les miens. Puisque les vêtements qui brûlaient, c'était souvent ceux de 3-4 frères et sœurs. Après, en même temps, comme je leur prêtais aussi les miens, finalement, les miens aussi y passaient. Alors, on n'avait plus grand-chose à se mettre. Mais bon, après, il fallait trouver des astuces pour pouvoir en avoir. Et moi, à un moment donné, j'ai quand même osé dire à certains camarades de l'école qu'on n'avait rien. Et finalement, ils nous en donnaient.
Qu'est-ce que vous parveniez à dire au monde extérieur, à vos camarades, aux parents de vos camarades? Car parfois, vous étiez invité tout de même.
On ne dit rien.
Et pourquoi on ne dit rien?
Parce qu'il ne faut rien dire. On a compris qu'il ne fallait rien dire. Donc finalement, on ne parle pas, on discute pas, enfin, on ne parle pas de ce qui se passe dans l'enceinte du château. D'ailleurs, j'en parle qu'aujourd'hui. Je pense que j'ai mis des années à pouvoir oser en parler. Donc,
ça veut dire que le monde extérieur, les enfants qui peuplaient votre vie à l'école, etc.
Ne savaient pas.
Personne ne savait ce qui se passait dans ce château.
Non.
Tout le monde pensait que vous aviez une vie de rêve. Parce que dans l'école où vous êtes scolarisé, il y a des enfants de petits commerçants, des enfants de classe modeste.
Tous
pensent que vous êtes la nantie.
Tous pensent que je suis la nantie et beaucoup idolent notre père. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dès que notre père recevait de l'argent de l'extérieur, il allait en distribuer. Parce qu'à un moment donné, la garde a été levée autour de la propriété. Et donc, il s'autorisait des sorties. Et il avait souvent beaucoup, beaucoup de liquidités. Et il les distribuait aux habitants à un moment donné. Et du coup, beaucoup de gens l'aimaient. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait dans l'enceinte du château. Et nous, on n'a jamais rien dit. J'ai jamais rien dit durant pas mal d'années. Il n'y a que maintenant que j'ai décidé de parler.
Vous vous êtes tous tenus les coudes, même s'il y avait des enfants qui prenaient plus cher que d'autres. Vous aviez une relation particulière avec votre père. Vous étiez en quelque sorte quand même parmi les préférés, on peut dire. On va en parler dans quelques instants avec vous, Marie-France Bocassa.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est sur RFI et mon invité est Marie-France Bocassa. Vous êtes l'une des filles de Jean Bedel Bocassa Ier qui s'était autoproclamé empereur de Centrafrique. Vous êtes née à Bangui, vous avez raconté cette enfance si particulière dans un livre publié aux éditions Flammarion, ça s'appelle Au château de l'ogre. Mmh. Et vous avez vécu une grande partie de votre vie, en fait dès l'âge de 9 ans vous arrivez en France, hein, après un séjour en Suisse, puis en Côte d'Ivoire. En fait, vous avez évidemment, comme vos frères et sœurs, été dans les bagages des péripéties de la vie politique de votre père. Ce père, vous le décrivez dans votre livre, c'est très étrange cette relation, parce qu'il est le pilier, vous n'avez quasiment pas connu votre mère, pas du tout même.
Pas du tout.
Il est la seule personne qui compte dans votre vie. En même temps, il est clairement autoritaire, maltraitant. Vous avez dit aussi que c'était compliqué de suivre une scolarité normale avec les privations qu'il y avait au château d'Hardricourt dans les Yvelines. Et en même temps, cette relation, elle est particulière parce que clairement, en tout cas c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est que vous êtes la préférée. Pourquoi ?
Parce que je me sens privilégiée, parce que je me dis que c'est quand même moi qui me rebelle tout le temps. Et puis finalement, je ne suis pas sanctionnée. Donc avec le temps, oui, on se sent privilégiée. Et mon père savait que je l'aimais, malgré tout ce qu'il pouvait nous faire. Je continue à l'aimer et je pense que j'ai toujours espéré à ce qu'il change. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis repartie en Centrafrique bien des années après, au moment où il est sorti de prison, parce que j'espérais qu'il change. En 1994, quand je suis partie en Centrafrique, arrivée dans cette ville-là où il était... il vivait, mais je me suis rendu compte que ce père n'avait pas changé. Donc je pense qu'enfant...
Alors il est sorti de prison, il vient d'être amnistié, hein, après avoir effectué 7 ans de détention.
Et son autorité est toujours égale à lui-même. L'emprisonnement qu'il veut de nous, en tout cas, est toujours là. Et je me dis, il ne changera jamais. Donc je pense que jusqu'à la fin de ses jours, et même voire au-delà, Je me suis toujours accrochée en me disant peut-être qu'un jour il changera.
Il y avait quand même dans votre personnalité des choses qui vous rapprochaient de votre père. Votre père aimait chasser, par exemple, en Sologne. Hein, il y a un chapitre qui est effectivement assez déconcertant, intitulé « Safari en Sologne », parce qu'il veut vous apprendre absolument à dépecer la viande. Hein, il ne faut pas oublier qu'il vient d'un peuple qui aime la viande, qui aime le... On mange beaucoup de viande en Centrafrique. Et vos frères et sœurs sont écœurés, dégoûtés. Vous, c'est quelque chose que vous aimez bien ?
Ben oui. Bizarrement, j'aimais bien. J'aimais bien et j'aimais le regarder à faire ça et j'aimais suivre ses consignes pour pouvoir faire pareil. Je voulais qu'il soit fier de moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ouais, j'avais toujours envie qu'il soit fier de moi. J'aimais relever tout ce qu'il nous demandait. C'est, c'est cette relation que j'avais de particulière avec lui. Quand tout le monde était dégoûté, tout le monde essayait de se sauver, partir, baisser la tête, moi je la relevais.
Pour ne pas découper les bêtes.
Voilà, mais moi je prenais plaisir à le faire. Ouais. Et c'est ce que je raconte dans une partie du récit. C'est pas bien de faire ça. Hein. Mais j'attrapais, comme je dis, les grenouilles pour les dépecer. J'ai continué à faire ça. Et d'ailleurs, ce qui m'a transmis par la suite, c'est ce goût à aimer cuisiner. Que j'ai gardé finalement, et j'aime cuisiner le gibier, donc je pense que voilà, je tiens ça de lui.
Vous avez été élevée au milieu de la prière, beaucoup.
Oui.
C'était à la fois pénible et en même temps, c'était un cadre rassurant pour vous ?
Non. En fait, c'était pas rassurant du tout, parce que ça se terminait souvent très mal. C'est-à-dire qu'au moment de prier, oui, j'étais contente quelque part, mais les prières finissaient toujours avec des excès.
De votre père ?
De mon père. Donc non. Le début de prière était rassurant, mais...
Votre père, quand il est en détention en Centrafrique, il signe ses lettres « Jean Bedel Bocassa, 6e apôtre du Christ ».
Il dit avoir reçu cette révélation justement en prison. Mon père, pendant ses années de prison, lisait beaucoup la Bible et que la Bible. Et donc, il dit avoir eu une révélation qui le décrivait comme 6e apôtre. Et donc, par la suite, que ce soit en prison ou à sa sortie de prison, il était toujours vêtu d'une grande robe blanche.
Mais vis-à-vis de vous, c'était quel type de lien ? Il y avait quelque chose de... Un peu comme si vous étiez l'élu aussi dans cette nombreuse fratrie, parce qu'il faut bien le redire, vous grandissez à Hardricourt, hein, dans les Yvelines, où Jean Bedel Bocassa a installé... vous êtes une dizaine de frères et sœurs, bien sûr, pas la totalité de ses enfants. puisque les notaires vont recenser 39 héritiers à sa mort. Lui disait qu'il avait eu 56 enfants. On ne saura jamais vraiment combien il a eu d'enfants. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il y avait dans cette relation entre vous et lui, finalement ?
Il y avait une forme de complicité. En même temps, j'avais que lui comme référence. C'est ce que je dis, n'ayant pas connu ma mère. Je me sentais comme s'il fallait que je le protège aussi par rapport à tout ça. Très jeune, j'avais compris plein de choses. J'ai compris qu'il en souffrait de tout ce qui s'était passé, en tout cas dans sa vie politique. Il avait vécu tout ça comme un échec. Et puis en même temps, souvent, il pleurait ses parents. Il nous contait beaucoup l'histoire de ses parents, beaucoup l'histoire de sa carrière. Et non, je me sentais envie de le protéger. Et même par la suite, en grandissant, j'ai toujours été très, très proche de mes frères et sœurs. Il fallait toujours, pour moi, c'était comme un devoir. Malgré que notre père était parti, il fallait que je rassemble la famille, il fallait que je les réunisse autour de repas. Il fallait que je fasse attention à ce que personne ne manque de rien. Donc j'ai sacrifié quand même ma vie de femme pour ma famille. Et finalement, il y a 3 ans, ouais, j'ai choisi d'écrire cet ouvrage contre le gré de ma famille, mais je l'ai fait pour leur montrer qu'aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout de cette démarche, c'est-à-dire que j'ai su les protéger, et aujourd'hui, je vais me protéger.
Aujourd'hui, vous avez gardé votre nom, Marie-France Bocassa. C'est un nom que ne connaissent plus la génération des trentenaires en France. Est-ce qu'il vous arrive encore qu'on vous demande qui êtes-vous ?
Oui, très régulièrement. Alors, pas les personnes de 30 ans, hein, mais plus celles qui se rapprochent de 50, 60 et au-delà. Donc, on me pose souvent des questions quand on aperçoit mon nom. On me dit, mais vous êtes la petite fille ou un membre de la famille. Et dès que je dis que je suis la fille de Jean-Bedel Bocassa, ben, y a tout un tas de questions qui se posent à moi. Beaucoup de gens font référence justement à cette vie pleine de facettes. Et par rapport à l'ouvrage, oui, il m'a semblé nécessaire de décrire la vie qu'on a eue pour que tout le monde lève, en tout cas, cette idéologie qu'ils avaient sur notre vie de faste.
Dans les rues de Bangui, le monde est ravi.
Mon frère.
Et la foule en délire.
Ouais.
Faites le premier empire. Il est beau.
Ouais, mon vieux.
Il est caca. Il est beau caca.
Ah ça oui.
Il est beau caca. Il est beau caca.
Jacques Martin, vous étiez trop petite pour connaître cette chanson. Le Petit Rapporteur, une émission satirique du dimanche matin, quelques jours après le sacre de votre père devenu empereur, c'était en 77. Vous étiez vraiment toute petite, 3 ans. Vous êtes tombée dessus il n'y a pas longtemps, cette chanson,
Oui.
Vous me disiez
En fait, ce sont des amis qui m'ont fait écouter ça. Certains rigolaient. Ils ont très vite compris que ça ne me faisait pas rire. Et encore une fois, je me suis rendu compte que l'image de notre père était très noircie, était liée aussi à des moqueries, des critiques très négatives. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce sont nous, les enfants, en tout cas, qui ont subi tout ça. Et je le répète encore une fois, il m'a semblé nécessaire d'écrire cet ouvrage pour que chacun, en tout cas, réalise à quel point nous, les enfants, nous n'avons fait que subir. Et que aujourd'hui.
Tous en sont conscients dans la fratrie que votre père, vous l'avez dit au début de l'émission, il régnait sur son château alors qu'il était déchu en exil, comme il avait régné sur son peuple finalement. Il voulait vous gouverner de la même façon.
Beaucoup de mes frères et sœurs, je pense, n'ont pas réalisé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vénère le chef d'État, certainement pour sa carrière. Moi, aujourd'hui, quand on me parle du père, le récit de ma vie dans cet ouvrage au château de l'Ogre, je m'interroge en fait sur le père. Parce que l'homme politique, effectivement, il a eu une carrière très très riche. Mais au niveau de son rôle de père, qu'est-ce que j'en ressors aujourd'hui? On n'en a pas la réponse, en tout cas. Voilà.
Vous avez dit que vous aviez voulu écrire pour dire la vérité, même si effectivement il y a cette relation ambiguë avec votre père qui était la seule personne qui prenait soin de vous, finalement la seule personne adulte, tout en étant maltraitant. Mais quelle a été la réaction de votre famille, de vos frères et sœurs quand le livre est paru ?
Réaction très violente, parce que pour eux, j'exposais en tout cas notre vie privée au grand public. En même temps, comme je leur ai dit, notre père est un personnage public avant tout. Donc il me semblait important de répondre à toutes les imaginations que les gens ont pu faire autour de lui. qu'il le voie aussi en tant qu'homme, c'est-à-dire pas qu'en tant qu'homme politique.
Mais par exemple, un de vos frères, Jean-Serge Bokassa, a été candidat à l'élection présidentielle en 2015 en Centrafrique. Il a recueilli un peu plus de 6% des voix. Est-ce que ces frères-là, est-ce qu'ils reconnaissent ce qui s'est passé? Est-ce que vous en avez discuté, par exemple, avec Jean-Serge?
Oui, j'en ai discuté. Ils reconnaissent, mais souhaitent rester dans le silence. Après, je respecte complètement. Moi, je parle en mon nom et je continuerai à parler en mon nom. Ils n'auront pas voulu que je divulgue la vie privée qu'on ait eue. Je peux comprendre, mais eux aussi, il faut qu'ils comprennent ma démarche. Voilà.
Vous n'étiez pas présente aux funérailles de votre père?
Non, je n'étais pas présente aux funérailles de mon père.
Vous l'aviez revu, en fait, peu de temps avant, finalement.
Oui, je l'ai revu peu de temps avant. Et puis, je veux dire, ça ne m'a pas plus attristé que ça d'être pas là. Encore une fois, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que les circonstances de l'époque ont fait que mes frères et sœurs m'ont oublié. Alors, j'ai pu comprendre que c'était assez volontaire. Mais bon, c'est comme ça.
Jean-Benel Bokassa est mort hier soir à Bangui. L'ancien empereur de Centrafrique avait 75 ans, souvent qualifié de bouffon tragique par la presse internationale. Il s'était autoproclamé président à vie en 1972, puis empereur 5 ans plus tard. Après 14 ans de pouvoir, 7 ans d'exil et presque autant de prison, il n'était plus ces derniers temps qu'un vieillard ruiné qui avait versé, paraît-il, dans le mysticisme.
39 héritiers ont été recensés par les notaires. Qu'est devenue la fortune de votre père ?
Qu'est devenue la fortune? Alors la fortune, j'en ai pas connue. Je sais qu'au moment de la liquidation de ses biens, il s'avère qu'on avait pas mal de dettes. Donc finalement, on n'a pas hérité grand-chose. Lorsque les biens ont été vendus, les propriétés qu'il possédait en France, on a hérité €1 million à diviser à 39. Voilà, très exactement.
Donc quelques milliers d'euros chacun.
Quelques milliers d'euros.
Et vous le disiez, la fortune, je ne l'ai pas connue, ce qu'on découvre dans votre livre. Il y a beaucoup de passages très précis qui racontent comment vous lavez dans une baignoire où il y a l'eau courante, mais avec une simple bassine d'eau froide, un peu d'eau chaude pour mélanger, ce qu'on ferait au village, finalement, en Afrique.
Oui.
Ça, c'était comme ça, dans le château d'Ardricourt, avec de très beaux meubles, et pourtant, la faim qui talonne l'estomac. Aujourd'hui, Marie-France Bokassa, vous avez 3 enfants.
Oui.
17, 22, ou plutôt dans l'ordre.
27,
22, oui. 17.
Oui.
Ils ont lu ce livre?
Alors, la plus jeune l'a lu. Les deux autres ne l'ont pas encore lu.
Ils portent quel nom, vos enfants?
Ils portent le nom de leur père. Ils n'ont pas le nom Bokassa.
Comment ils se projettent dans la mémoire familiale?
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours. J'ai fait en sorte, en tout cas, d'éviter de leur parler de mon père et de mon passé, une manière de les protéger pour qu'ils puissent grandir sereinement. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont l'âge de comprendre, je commence à leur en parler. J'ai commencé avant la parution de l'ouvrage. Donc maintenant, on essaie d'en discuter un petit peu. Alors, ils sont un peu attristés pour moi. Ils commencent seulement à comprendre. Quand j'ai rompu tout contact avec pratiquement l'ensemble de mes frères et sœurs, ils étaient attristés. Ils ne comprenaient pas, mais je leur avais expliqué qu'il fallait me laisser du temps pour leur en parler. Et aujourd'hui, je leur donne les réponses qu'ils souhaitaient. Et ouais, j'avais besoin de les protéger.
Vous êtes la seule de la fratrie qui est restée vive dans les Yvelines, tout près d'Ardricourt. Vous avez tenu un restaurant,
oui.
Aujourd'hui encore?
Aujourd'hui, j'ai un salon de thé. J'ai un salon de thé et bar à cocktail. Ouais. Et je suis toujours à 5 minutes du château.
Vous passez d'Ardricourt.
Non, il est en hauteur. Oui, pour éviter les embouteillages, je passe devant le château d'Ardricourt. Mais
métamorphosé, habité par qui, vous savez?
Habité par un couple des particuliers, en fait, qui ont acheté le château et qui font des cérémonies de mariage à l'intérieur. Donc, je trouve ça beau, finalement. Parce que ce château revit sous toutes ses paillettes, alors c'est
avec
magnifique.
Plus de bonheur.
Avec du bonheur.
Votre mère, est-ce que vous l'avez retrouvée, enfin?
Oui, en fait, je ne l'ai pas encore rencontrée. Je l'ai retrouvée, je sais où elle est située, à Taïwan, donc dans le sud. Je connais le village. Maintenant, je ne sais pas si... Enfin, je ne me sens pas encore prête pour aller la voir. Je pense qu'il faut que je continue à travailler sur moi-même, déjà pour ne pas être... trop choquée par rapport à tout ça, toutes ces années d'absence, en fait.
À quoi vous aspirez? Alors aujourd'hui, à 44 ans, Marie-France Bokassa, vous avez tout dit ou presque, en tout cas tout ce que vous saviez.
à te débarrasser de tous ces souvenirs qui m'empêchent de dormir. J'aspire à me construire en tant que femme et en tant que Marie-France Bokassa et non en tant que fille de Jean Bedel Bokassa, ancien dictateur ou cannibale. Je sais qu'on ne peut pas effacer le passé, mais par contre, on peut construire son futur. Donc, c'est ce que je vais faire.
Merci en tout cas à vous, Marie-France Bokassa, d'être passée par le studio de 7 milliards de voisins. Il faut vous lire.
Merci
absolument.
À vous,
au Château de l'Ogre, aux éditions Flammarion. Et puis votre récit est aussi à réécouter sur RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci.
Dans quelques instants, on va donner la parole à un ex-otage américain en Syrie. Il figure dans le documentaire « Otage » qui a été diffusé sur la chaîne Canal+, et qui aborde différents parcours de captivité avec pour point commun la gestion mentale de cette parenthèse de survie. Ça sera juste après Fela Kuti.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Il s'appelle Peter Theo Curtis, américain, journaliste indépendant. Il a vécu 22 mois en captivité, prisonnier d'Al-Qaïda en Syrie, d'octobre 2012 à août 2014. Il témoigne aux côtés de 6 autres ex-otages dans un documentaire édifiant, Otage, qui a été diffusé sur la chaîne Canal+, réalisé par Michel Perrard. Peter Theo Curtis a vécu au Yémen 3 ans pour apprendre l'arabe et puis ensuite en Syrie de 2008 à 2011. Et quand le conflit syrien a commencé, il est rentré aux États-Unis quelque temps. Et puis, ensuite, il est reparti pour la Turquie, près de la frontière syrienne, avec une seule idée en tête, couvrir le conflit syrien. Charlie Dupiot l'a rencontré à l'occasion de son passage à Paris. Il est parfaitement francophone.
C'était le mois d'octobre 2012, et j'étais journaliste freelance, indépendant. Si j'allais en Syrie, c'était sur ma propre responsabilité. Donc, je traînais un peu dans les allées et dans les restos et dans les hôtels pas chers pendant 2 semaines pour chercher quelqu'un dans qui je pouvais avoir confiance, qui allait m'amener en sécurité en Syrie.
En Turquie, vous étiez à l'époque?
J'étais en Turquie, j'étais à Antakya et j'ai traîné un peu dans les rues. Finalement, j'ai rencontré 3 types sur un balcon. Un soir, ils étaient assez silencieux et mystérieux. Et je me suis dit, tiens, ce sont peut-être des petits passeurs. Mais comme ils avaient peut-être 20 ans, 22 ans, je me suis dit, ok, peut-être ils vendent de la drogue, peut-être de l'alcool. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voyager avec eux. Je ne savais rien. Je voulais quelqu'un qui allait m'amener dans cette guerre. J'étais prêt à tout. Donc au moment où ils m'ont pris en otage, pris prisonnier, c'était le lendemain.
Mais vous étiez où à ce moment-là ?
On est arrivé en Syrie, à côté du village qui s'appelle Benesh, là où James Foley s'est fait kidnapper. C'était un journaliste américain. qui a été finalement pris par Daesh. Moi, j'étais le premier. Ensuite, c'était James Foley.
Un mois après vous.
Un mois après moi, oui. 2012.
James Foley, dont on a vu des images terribles de sa décapitation.
Voilà. On a dormi dans une maison abandonnée, quelque part dans la Syrie, je ne sais pas où. Le lendemain, on s'est levé, on a pris de la voiture, on a roulé pendant peut-être une demi-heure. On est passé à travers le village de Benesh. On a retrouvé une autre maison abandonnée. Ils m'ont tabassé un peu, matraqué. Ils avaient des espèces de tuyaux avec eux, derrière leur dos un peu. Ils avaient des menottes et une flingue. Ils m'ont menotté les mains vers l'avant. Et puis ils m'ont dit Nahna min tanzim al-Qaïda. On est du système d'Al-Qaïda. Notre cheikh c'est Bin Laden. Et toi tu es notre prisonnier. Comme j'ai passé les 24 heures avant avec eux, j'aurais dit, vous rigolez, mais c'est pas vrai ce que vous faites, c'est une blague ça. Finalement, ils m'ont dit, non, c'est pas du tout une blague. Qu'est-ce que tu veux faire, en téléphone à Al Jazeera tout de suite, ou tu veux téléphoner à tes parents, ou ton président, qu'est-ce que tu veux faire? J'aurais dit, ok, je téléphone à mon père tout de suite, il y en a. Ils m'ont amené tout de suite dans un poste d'Al-Qaïda. J'ai pu voir, à travers le bandeau qu'ils m'ont mis autour de la tête, j'ai pu voir des drapeaux d'Al-Qaïda partout dans cette maison. Donc c'est à partir de ce moment-là que la torture a commencé. C'était avec l'électricité, avec ces tuyaux. J'ai passé 2 ans en total en Syrie, dans 13 prisons. Je suis passé dans plusieurs prisons à Alep pendant 1 an. Après 1 an, ils m'ont envoyé vers Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie.
Dans le documentaire « Otage » auquel vous participez, on vous entend dire à un moment « J'incarnais à leurs yeux le gouvernement américain ». Quelque chose qui vous dépasse, en fait.
En me torturant, ils se sont dit « Voilà le message qu'on aimerait envoyer à vous, les envahisseurs futurs de notre pays. On va vous torturer et tuer les gens à côté, à droite, à gauche, dans les cellules, à côté. »
Des prisonniers ?
Des prisonniers, bien sûr. C'est ce qu'ils font avec leurs prisonniers. C'est rare qu'un prisonnier sorte de leur prison, vivant.
Vous avez une idée de la fréquence de ces moments de torture ?
Au début, c'était une fois par semaine. Peut-être de temps en temps, deux, trois fois par semaine. Pour les premiers 3 mois. Après ça, c'était plutôt de la punition. Si jamais ils aimaient pas ce qu'on faisait, j'étais dans plusieurs prisons où la parole était interdite. Bien sûr, les prisonniers voulaient se parler. Donc, on était souvent matraqués, mais pas vraiment torturés. Après, c'était plutôt juste pour dire, Enta haywan, toi, tu es un animal, c'est mon droit de te taper comme ça.
Mais donc, vous êtes allé dans 13 prisons. Et en général, qui étaient vos co-détenus ? D'où ils venaient ?
Au début, c'était les officiers de l'armée du régime syrien. Et puis, souvent, des gars de l'armée libre syrienne. On n'a pas le droit de se doucher. On n'a pas le droit de couper les cheveux, brosser les dents. Oui, avant, ma première douche, j'ai passé quoi 6 mois dans le même slip. J'avais le droit à une douche par semaine, presque.
Est-ce que vous vous souvenez, même s'il y a eu des périodes différentes, de à quoi vous pensiez quand vous étiez dans le silence la plupart du temps ? Qu'est-ce qui occupait votre esprit ?
Au début, j'avais tellement peur que j'ai essayé d'écrire dans ma tête des poèmes ou de chanter, mais j'avais tellement peur que... Ce qu'ils m'ont dit au début, c'était « Soit tu avoues que tu es agent de la CIA, soit tu vas mourir sous la torture. » Moi, ce que je voulais, c'était la mort. Dans la façon la plus rapide possible. Si j'avais du poison dans la cellule, je l'aurais mangé. Si j'aurais pu me pendre, je l'aurais fait. J'ai essayé, mais avec le bandeau qu'ils m'ont donné et le poignet de la porte, mais j'ai pas pu vraiment me pendre correctement. Je craignais la mort sous la torture. Ça a duré, finalement, ça n'a pas duré longtemps, mais peut-être une demi-heure. Mais pendant cette demi-heure, ça dure dans ta tête, ça dure des années. Je craignais qu'ils aillent faire avec moi ce qu'ils ont fait avec ce pilote jordanien. Une grande séance filmée pour tout le monde que ma mère allait voir. C'est une expérience où tu perds conscience de ton identité. Ce qui m'a aidé à tenir, c'était un moment où j'ai pu écrire, au mois de mai 2014. C'est un grand commandant de Al-Qaïda qui m'a donné un stylo et un bout de papier. Je voulais que le lecteur sache comment ils se comportent, les gars de l'État islamique. Sur les pages de mon roman, je gérais ce qui se passait. Quand il faisait chaud dans ma cellule, j'amenais mes personnages dans le roman à côté d'une rivière, dans le Vermont, en montagne, et ils se baignaient. Et ça m'a beaucoup soulagé. Mes personnages nagent souvent dans mon roman parce qu'il faisait tellement chaud. Au mois de mai, à Deresor, juin, il fait vraiment chaud. Et les gens qui mouraient, mouraient pour une raison dans mon roman. Et après 22 mois, on m'a libéré. Notre gouvernement américain refuse de négocier avec les terroristes. Donc tous les Américains, à part moi, ont été tués. Et pourquoi je n'étais pas tué ? Parce que j'avais de la chance. Je pense finalement, quelqu'un a dû payer une rançon. Je ne sais pas qui c'est, mais... Au moment où j'ai compris que j'allais être libéré, j'étais dans une voiture avec les soldats des Nations Unies sur la frontière israélienne, mais toujours en Syrie. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai pas pu m'arrêter quand je suis rentré aux États-Unis. J'ai pas pu m'arrêter quand j'entendais une chanson ou je voyais un ami. Même quand je voyais un vélo. Je faisais beaucoup de vélo avant. Parce que le vélo me manquait beaucoup dans ma cellule.
Vous y pensiez ?
Je pensais souvent à la liberté que donne un vélo. Et je veux vivre la vie d'un cyclo-écrivain. Voilà mon rêve.
D'un écrivain à vélo.
C'est-à-dire, je veux rouler à vélo dans l'après-midi et écrire dans la matinée. Il faut que je termine le roman, mais Inch'Allah, je vais le terminer.
Milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur le télétravail. Travailler à la maison, en dehors de son entreprise, ça pourrait concerner dans un futur proche 1 milliard 300 millions de travailleurs. À demain, les voisins et les voisines.
Tout à l'heure sur